Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
La série de balado Les passionnés de la table ronde rassemble des personnes qui ont quelque chose à dire sur un sujet donné qui touche les francophones du nord et de l'ouest du pays autour d'une table ronde. Aujourd'hui, décidément, est le retour des jeux de rôle. À l'animation, moi-même Yann Dallaire, nos passionnés Joël Lebois, Ariel Morier-Roy, Colin Champagne et Chuck Odenibo, tous participants à la série Décidément diffusée sur webwest.ca. Mise en contexte, webwest.ca présente une série où l'on suit des francophones de l'Ouest qui jouent à un jeu style Donjons et Dragons. On en parle avec nos passionnés, mais d'abord, j'aborde la montée de la popularité des jeux de rôle ces dernières années et je cherche à mieux comprendre le phénomène. Voici les passionnés de la table ronde et le retour des jeux de rôle.
Alors, bienvenue tout le monde, merci d'être là. Je vais commencer par faire un tour de table puis vous laisser vous présenter peut-être en me disant, c'est quand la première fois que les jeux de rôle à la Donjons et Dragons sont entrés dans votre vie? Puis je vais commencer par Joël.
Ah, alors moi, c'est Joël Lebois, je joue le rôle de Richard et ça fait à peu près 10 ans que je joue Donjons et Dragons avec toutes sortes de différents groupes d'amis qui rassemblent un peu des différentes cohortes à l'intérieur de ma vie personnelle. Fait que c'est le fun et ça donne la chance de jouer en anglais, en français, avec des différentes personnes, beaucoup de trop de soirs de la semaine.
Oui, OK. Tu dis ça fait 10 ans, je peux-tu te demander c'est quel âge t'avais? T'avais-tu 16 ans? T'avais-tu 25 ans?
J'avais à peu près 30 ans quand j'ai commencé à jouer, oui.
OK, quand même, c'est tardif.
Oui. Ouais. Parce qu'il y avait un renouvel qui est vraiment sorti. Et puis, j'ai rencontré du monde qui se sont dit, « Hey, nous, ça nous intéresserait. Est-ce que toi, ça t'intéresse? » Puis moi, j'ai dit, « Ah, ça fait 25 ans que j'attends que quelqu'un me pose cette question-là.
» Oh, good, good. Super. Ariel.
Oui, alors, moi, c'est Ariel Morier-Roy. Je joue le rôle de Lys. Moi, Donjons et Dragons, j'ai toujours aimé les jeux de société, le théâtre, mais je savais pas c'était quoi. Jusqu'à probablement mi-vingtaine, où j'ai un ami, justement, qui essayait de commencer un groupe. Et on a commencé à jouer, puis on a joué pour quelques mois, puis ça s'est un petit peu éteint. Mm-hmm. Alors, j'avais joué un petit peu, mais juste assez pour avoir le goût, puis savoir que c'était le fun. Jusqu'à décidément.
D'accord. Chuck?
J'ai entendu de Dungeons & Dragons, mais je ne l'ai jamais joué. Je ne l'ai jamais tenté dans ma vie avant décidément. Donc, okay. C'était un nouveau monde pour moi.
Qu'est-ce qui a fait, tu penses, qu'on t'a demandé puisque tu n'avais pas d'expérience?
Oh, ça, c'est une belle question. Je suis pas trop certain.
Est-ce que t'es quelqu'un qui fait de l'improvisation? Parce qu'on parle beaucoup d'improvisation puis de capacité justement de jouer des personnages. Est-ce que tu avais cette réputation-là, peut-être?
Pas vraiment comme improvisation. La seule chose que j'ai vraiment faite dans un monde, dans les alentours de faire d'être comédien et de vraiment être comme mannequin, mais également. Oh. Je suis souvent orateur pour plusieurs événements et trucs comme ça. Ouais. Donc, je vois que mon énergie a un peu attiré Colin et Gabriel pour me demander.
Mais tu sais quoi, justement, on va demander à Colin qu'est-ce qui a fait que tu as été recruté. Colin Champagne, présente-toi donc.
Ouais, bonjour, Colin Champagne, mais du jeu dans Décidément. Je peux répondre à la question pourquoi Chuck, on lui a demandé de faire une audition. C'est parce que je savais en fait que Chuck était un peu un geek. Il aimait beaucoup des séries anime et puis j'ai reconnu plusieurs traits de geek en Chuck, les meilleurs traits. Et il m'avait dit qu'il avait fait un peu d'impro quand il était plus jeune et puis j'ai dit, well, you know what, passe-nous l'audition, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Puis il était super en audition, moi puis Gab, on l'a adoré, donc le reste est l'histoire comme on dit, puis super bien fait dans la série Décidément. Pour ma part, les jeux de rôle comme Dungeons & Dragons, mais en fait, je pense que ça s'est introduit dans ma vie avant que je sache c'était quoi Dungeons & Dragons sous la forme des jeux vidéo, comme les vieux jeux de rôle de BioWare, comme Knights of the Old Republic et Mass Effect. Ces jeux-là incorporent beaucoup des éléments de jeux de rôle qu'on retrouve dans Dungeons & Dragons, mais l'élément je crois, le plus important qui manque, c'est l'aspect social et l'aspect humain qu'on a quand on joue autour d'une table avec d'autres vraies personnes. Puis mm-hmm. ça, c'est seulement vraiment présenté dans ma vie en 2020, quand j'ai commencé à jouer virtuellement avec des cousins à moi.
Virtuellement, tu veux dire pendant la pandémie, là, j'entends, 2020? Alors, vous vous êtes mis à jouer sur Zoom ou sur des plateformes de genre?
Oui, exactement. On a utilisé Google Meet et Zoom pour faire des parties ensemble. Puis, dans le fond, ça a bien marché parce qu'on pouvait utiliser Google Meet aussi pour projeter des cartes de jeu. Puis, ouais. On peut montrer où nos pions étaient. J'étais capable de contrôler une bande sonore pendant nos parties aussi. Donc, quand il y avait de l'action, je mettais de la musique d'action. Puis, ça se coordonnait quand même assez bien de manière virtuelle sur Zoom. Puis ça m'a permis de jouer avec des gens qui sont pas proches de moi physiquement dans la même ville.
Ouais, j'imagine. OK, retournons à la vraie base, parce que récemment, j'ai invité des amis pour un feu chez moi, puis on a justement parlé du retour de Donjons et Dragons. Puis surprenamment, il y en a plein qui savaient pas du tout c'était quoi. T'sais, oui, ils en entendent parler. Puis oui, effectivement, ils associent ça à être geek. T'en as un petit peu parlé, Colin, puis on va y revenir. Mais qu'est-ce que c'est qu'à la base Donjons et Dragons? Je sais pas qui veut expliquer ça là, en une minute et demie.
Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle où on joue à une table et il y a un système de jeu qui nous permet de déterminer qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur d'une histoire. Alors vraiment, c'est conter une histoire de façon collective où la majorité des personnes autour de la table sont des joueurs et il y a une personne qui est le maître du jeu, qui va jouer tous les personnages qui ne sont pas les autres personnages à la table. Et le jeu est déterminé en jetant des dés. Alors, on lance des dés pour déterminer qu'est-ce qui va se passer. Si on a du succès lorsqu'on essaie de faire quelque chose, Donjons et Dragons, comparativement à d'autres systèmes de jeu qui sont similaires, a beaucoup, beaucoup de règlements, comme 300 plus pages de, de règlements par rapport à si on tente de sauter à travers d'une falaise, mais qu'il vente cette journée-là, il faut rouler 14 ou plus sur un dé de 20 pour être capable de déterminer qu'est-ce qui va se passer. Puis il y a plusieurs joueurs qui aiment ça parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer, puis ils savent comment manipuler un peu la situation pour avoir autant de succès numérique que possible. Puis il y a d'autres systèmes où c'est vraiment au sujet de l'histoire, plus que n'importe quoi d'autre, et c'est au sujet de la relation qui existe entre les personnages et l'histoire avance. Puis on jette des dés des fois pour savoir un peu, pour donner un peu de mystère, pour savoir que des fois, c'est possible de ne pas avoir du succès et qu'on trouve des beaux moments d'histoire dans les échecs ainsi que dans les succès. Mais ça dépend vraiment de qui sont les joueurs puis qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme leur expérience.
Est-ce qu'on entend beaucoup parler de Donjons et Dragons, peut-être parce que c'est-tu le premier? C'est-tu ça qui a créé ce genre de jeu-là?
C'est le premier système de jeu de rôle, à ce que je sache.
D'après ce que moi, j'ai trouvé dans mes recherches, parce que aussitôt que je m'imprègne d'un sujet qui m'anime, je vais regarder des documentaires, je vais chercher des affaires, que les systèmes de jeu de rôle...
Tu vas écouter des podcasts.
Ouais, c'est ça. D'après ce que moi, j'ai compris, ça existait quand même depuis un certain temps, mais ça a vraiment commencé presque comme une façon de jouer à la guerre. Donc, tu avais des petits bonhommes comme deux armées qui s'affrontent, puis il y a peut-être des dés pour... des règlements très simples pour jouer à ça sur des grandes tables. Mais c'était très niche comme passe-temps, c'était pas très développé. Et il existait déjà quelques différentes versions de systèmes de règlements. Mais Donjons et Dragons, c'est vraiment le premier qui a été développé, publié et a eu un succès au niveau où c'est devenu vraiment partie de la culture populaire et a continué à évoluer, etc.
Une codification à grande échelle.
Exactement. Oui.
Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, puis c'est peut-être important de préciser, c'est qu'on rentre dans une espèce de monde médiéval, magique, à la Seigneur des Anneaux, je pense.
Et ça, c'est le Donjon et Dragon traditionnel, okay. Et c'est suggéré par le Donjon et aussi le Dragon dans le titre. Mais il y a toutes sortes de différentes façons de jouer le jeu. Il y en a plusieurs qui se situent ailleurs que dans le monde fantaisiste traditionnel. Des fois, c'est steampunk, où il y a comme un peu de technologie et un peu de magie, ou des fois, c'est très réaliste. Est similaire à ce qu'on verrait dans le vrai monde.
Une enquête de crime ou ce genre d'affaires-là?
J'étais hôte de table ronde où les personnages jouent genre le rôle de quelqu'un d'autre à la table. Alors, si on est tous des artistes, mais moi, je suis producteur. On pourrait jouer un jeu de rôle où moi, je suis artiste et quelqu'un d'autre est producteur et on s'affronte ensemble à des vraies questions qui font face à la communauté artistique, par exemple.
Je pense que pour répondre un peu à ta question, c'est quand tu dis les gens ne savaient pas trop c'était quoi. Plusieurs des gens font référence récemment à Stranger Things parce que les personnages dans Stranger Things jouent à Donjons et Dragons et plusieurs des éléments de Donjons et Dragons sont incorporés dans l'histoire de l'émission aussi. Parce qu'à la base, puis le créateur de Donjons et Dragons l'a dit, à la base, Donjons et Dragons, c'est ton imaginaire, un crayon puis un papier. C'est vraiment juste ça que tu as besoin, c'est un crayon puis un papier puis ton imaginaire. Puis tous les règlements sont absolument facultatifs, tant et autant que les gens à la table ont du plaisir. Donc, comme Joël l'a bien dit, c'est de jouer le rôle, avoir des règles qui aident à décider si quelque chose est faisable ou pas. Mais dès que les gens découvrent un peu c'est quoi, et puis cette idée de « oh, c'est juste pour les ultra-geeks, oh, c'est juste pour ceux qui hantent les sous-sols des parents », dès qu'on se défait un peu de ce stéréotype-là, on découvre que c'est en fait beaucoup de fun, tant et autant que les gens à la table ont du fun. Un élément assez drôle, c'est que je pense que c'est les années 80, Tom Hanks avait figuré dans un film où il jouait à Donjons et Dragons, mais à cause qu'il jouait à Donjons et Dragons, il avait été possédé par Satan. Et c'était un film absolument désastreux, mais c'était un peu aussi ça l'image que les gens avaient du jeu. C'était que c'était quelque chose de démoniaque, ça menait aux démons. La religion était vraiment très opposée à ça pendant plusieurs décennies, puis il l'est encore à certains niveaux, je suis certain. Et donc, il faut se défaire de ces stéréotypes-là culturels pour découvrir vraiment le potentiel que ces jeux-là ont.
Hey, moi, je ne l'ai pas dit, là, puis ça va en lien directement avec ce que tu viens de dire, Colin. J'ai commencé à jouer, j'ai été invité à jouer, j'avais peut-être 14 ans par un maître qui en avait 18. Puis l'écart est quand même assez important, entre 14 et 18 ans. Fait qu'on a vraiment trippé parce qu'on le trouvait, tu sais, hyper intelligent. Puis ça, c'est un geek. Puis lui, il avait l'histoire d'avoir essayé d'amener un club de Donjons et Dragons dans son école et la direction de l'école n'avait pas voulu. Parce que, justement, ça faisait peur. Alors, il a fallu qu'il écrive tout un argumentaire sur à quel point ça peut être positif pour l'imaginaire, tu sais, le développement de l'enfance, etc., pour être capable de faire accepter son... Mais à la base, il voulait pas. Tu sais, il y avait quelque chose. Puis on est dans les années 90, probablement, dans le milieu 90.
Puis il n'y a vraiment pas de différence entre avoir une équipe d'impro dans son école et avoir un club de Donjons et Dragons. C'est très similaire, sauf qu'il y a probablement plus de règlements dans Donjons et Dragons.
Ouais.
Mais autrement, c'est la même chose. On compte des histoires, c'est de l'imaginaire. N'importe quoi pourrait se passer. Et oui, on pourrait mettre des consignes de comme « Oh, faites pas des affaires trop risquées pendant le club d'improvisation », de la même façon qu'on pourrait le dire pour Donjons et Dragons. Mais autrement, ça serait très similaire. D'écarter un et de dire que l'autre est acceptable, c'est complètement ridicule.
Ben, c'est ne pas connaître Donjons et Dragons,
c'est
je pense.
Ça. Ouais.
Moi, j'ai toujours comparé ça à quand on est enfant, puis on fait semblant. On va jouer, on est des docteurs, ou on est des cow-boys, ou on est des magiciens. Et c'est tout dans l'imaginaire, on vit des moments fascinants, mais comme adulte, on arrête de faire ça. Puis c'est l'affaire la plus proche à laquelle j'ai pu le comparer, que tu vis vraiment des moments en groupe, ensemble, des aventures que tu pourrais pas vivre dans ta vie ordinaire et qui vont te marquer avec tes amis. Ouais.
Chuck, je t'ai posé la question tantôt, qu'est-ce qui a fait qu'on est venu te chercher? Là, je vais te poser la question inverse. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de jouer?
Ben, deux choses. So, tout d'abord, on a fait un essai à l'avance et j'ai beaucoup aimé cette idée de jouer avec l'imagination et de co-créer une histoire tout ensemble. Mais en plus de ça, j'ai un ami qui est vraiment, vraiment into Dungeons & Dragons. Et pour lui, il m'a parlé vraiment de l'élément de communauté. Le fait que quand il a grandi en France, il a trouvé un sentiment de communauté, un sentiment un sentiment d'appartenance, disons, avec des gens avec qui il jouait Donjons et Dragons. Et quand il est déménagé à Montréal, pour la première fois, il est déménagé sans connaître personne. Puis il a commencé en ayant un club, une association, un genre de choses, qui jouait Donjons et Dragons. Il s'est joint là-bas et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ses premiers amis. Donc, c'est vraiment comme si, pour beaucoup de personnes, c'est plus qu'un jeu. C'est une communauté, c'est un lieu de rassemblement, c'est un espace où on peut trouver un sentiment d'appartenance. Et tout cela m'a vraiment touché parce que c'est innovateur de non seulement avoir un jeu de Donjons et Dragons, une émission de Donjons et Dragons en français, mais de le faire parmi un milieu francophone minoritaire, à l'Ouest surtout. Et donc, je pris ça comme un appel de communauté. Ouais, je pris ça comme une façon de vraiment me redonner à la communauté parce que c'est une façon d'être comme, regarde, vous aussi, vous êtes accueillis dans ce genre d'espace. Puis en plus, le plus que je commençais à comprendre les règles de jeu, le plus que je commençais à comprendre en gros les jeux, la façon que le jeu est joué, j'ai joué avec l'idée de conceptualiser un personnage basé sur un dieu africain. Ceci afin d'être vraiment qu'un personnage qui est noir dans un monde qui n'a pas vraiment le concept de race selon le concept qu'on a dans notre monde actuel,
ouais.
Mais de vraiment quand même amener tous ces éléments dans mon personnage pour que je sois non seulement quelqu'un qui est en train de m'amuser avec des nouveaux amis, mais également je suis quelqu'un à qui les gens peuvent se voir. Dans ma tête, au moins que quelqu'un nous montre quelque chose d'autre, le premier jeu, la première mission Dungeons & Dragons en français au Canada, l'idée de voir la diversité impliquée, pas juste diversité de visages, mais également diversité de personnages.
Ouais.
Ça m'a touché profondément aussi. Donc, pour moi, c'est moi sur le côté Dungeons & Dragons qui m'a amené, mais vraiment sur le côté signifiance, sur le côté communauté, côté innovation, côté visibilité, qui m'ont vraiment comme inspiré dans ce jeu.
Très intéressant. Merci d'avoir partagé ça. J'aimerais qu'on comprenne un peu mieux, parce qu'on parle de personnages, puis on parle aussi de maître de jeu. À quel point on arrive préparé pour jouer à Donjons et Dragons? À quel point il faut se créer un personnage? À quel point c'est compliqué? Il faut lire, etc.
On peut se préparer autant qu'on le veut, mais c'est pas nécessairement un fardeau. Alors, il y a certains joueurs qui disent « Ah, moi, je vais m'appeler Bobin, et puis je suis un afflin, et j'ai une épée. » Wow! Et c'est tout. Ouais. Et le restant, ils vont l'inventer à la table, et ils vont s'amuser, puis ils vont déterminer quelle est la relation entre leur personnage et les autres personnages dans le moment, puis ça va être très organique. Il y a d'autres personnes qui vont dire « J'ai écrit 45 pages au sujet de la naissance de mon personnage, qui sont ses parents, qui était son meilleur ami quand il est jeune, quels étaient les moments marquants pour lui dans sa jeunesse jusqu'à ce point-ci, quelle est son éducation, quelles sont ses capacités maintenant. »
Comment il va réagir justement, face à tel défi.
Pour savoir, oh, quand la reine écrit une lettre qui dit « Oh, j'ai vraiment besoin d'aide avec X, Y, Z, oh, je vais savoir que mon personnage a vécu un traumatisme par rapport à comme un monarque dans le passé et donc je ne vais pas nécessairement faire confiance à la reine quand elle me demande quelque chose. » Et ça peut vraiment informer les décisions qu'on va rendre à la table. Et tout entre ces deux points du spectre, comme hyper préparation et comme presque zéro préparation, mm-hmm. toutes ces affaires-là, il y a plein de place entre ces deux points-là pour toutes sortes de différentes personnes qui veulent jouer à Donjons et Dragons, n'importe quel jeu de rôle. Alors, c'est vraiment le côté participation, c'est ce qui est important. Le côté préparation, ça va dépendre de la personne.
Ça va dépendre de la personne. Ariel, toi, t'es quel genre de personnage? Quel genre de joueur?
Quel genre de joueur? Le joueur qui écrit 45 pages. <C'est ça. rire>
Je voulais te laisser la chance de le dire.
Infameusement, pour décidément, j'ai créé toute une région du continent d'Imitar qui s'appelait Midori et inventé une sorte de culture autour de ça et embarqué le personnage de Joël à me joindre, que tu viens aussi de cette place que j'ai inventée. Oui, moi, personnellement, j'aime ça, être capable de développer un personnage. C'est un peu le côté que tu n'aurais pas dans un match d'improvisation, par exemple, où tout est vraiment dans l'immédiat.
Moi, et ça dure 1 minute 30 secondes.
Exactement. Ben, moi, j'ai tendance à faire mon meilleur travail, je pense, quand je peux me préparer, quand je peux vraiment rentrer dans le personnage et mariner des idées aussi pour délaisser les idées que je trouve moins bonnes, ajouter à celles que je préfère. juste pour créer un personnage qui a vraiment une profondeur et qui pourrait aussi avoir des secrets à révéler.
Ouais, ouais. Alors, je comprends que le joueur, qui n'est pas maître, contrôle assez bien son personnage quand même. Le reste, c'est le maître du jeu. Et Colin, explique-nous donc qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver.
OK, il y a, je pense qu'il y a un peu deux modes de pensée, puis Joël y a touché un petit peu, parce que il y a le maître du jeu qui est ultra préparé, puis il y a le maître du jeu qui fait le moins de préparation possible. Et puis, au départ, moi, je pensais qu'il fallait être ultra préparé. Je pensais qu'il fallait, tu sais, penser à toutes les différentes options. Si les personnages choisissaient de faire telle ou telle chose, parce que dans le fond, ils sont libres d'aller n'importe où dans le monde où ils veulent, ils sont libres de faire n'importe quoi qu'ils veulent, de parler à qui ils veulent. Donc, il faut des fois avoir en tête la population entière d'un village. c'est qui le boucher, c'est qui le forgeron, c'est qui le médecin, à qui est-ce que le médecin est marié, est-ce qu'il y a des enfants? À quelle école est-ce que ces enfants-là vont? Il y en a qui se préparent à ce niveau-là et qui écrivent littéralement la Bible, comme Ariel a dit. Mais il y a aussi l'autre extrême où on prépare moins. Et dans mon expérience, les séances de jeu qui étaient le plus amusantes pour moi-même, mais aussi pour mes joueurs, c'était ceux où il y avait le moins de préparation. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement qu'on a moins de préparation, mais peut-être qu'on est plus dans le... On joue plus dans le sens de est-ce que cette action ici a du sens? Et ensuite, il s'agit d'improviser. Donc, basé sur les choix des joueurs, on développe l'aventure plutôt que de s'assurer de suivre une aventure déjà préparée. Ça donne un sentiment un peu plus vivant à la chose, selon moi. Ça donne aussi un sentiment un peu plus fluide, parce que c'est difficile quand même de devoir à se référer constamment à des notes pour s'assurer qu'on a dit la bonne chose, s'assurer qu'on a dit, on n'a pas fait une erreur dans l'arbre généalogique du facteur, parce que ça c'est crucial à l'histoire. C'est vraiment de se concentrer sur les éléments importants de l'histoire, puis ça c'est les personnages, c'est quoi leur motivation, puis essayer d'avoir des éléments dans l'histoire qui répondent à ces motivations-là, qui donnent la chance aux personnages de faire des choses cool, de faire des choses qui sont intéressantes. Puis c'est là où les joueurs ont le plus de plaisir. C'est quand ils font des choses intéressantes puis quand leurs personnages peuvent vraiment utiliser leurs compétences.
Quand ils ont l'impression d'avoir une forme de contrôle, un petit peu.
Exact.
Ouais, d'accord. Maintenant, parlons du phénomène... du fait que ça soit de retour. Puis là, je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'ai magasiné dans un magasin et puis soudainement, il y avait toute une section du magasin qui était destinée à Donjons et Dragons. Puis là, moi, ça fait longtemps que j'avais joué, ça fait longtemps que j'avais pu jouer après, puis je n'avais plus ou moins entendu parler. Puis là, je me suis rendu compte que, de plus en plus, j'entends de plus en plus de monde jouer à Donjons et Dragons. Et là, ça se reflète même dans le magasin, dans la société, tu sais. Alors, est-ce que vous sentez ça, que c'est en train de revenir? Pourquoi?
Ben oui, je pense que oui. En fait, moi aussi, j'ai beaucoup remarqué la résurgence. Je me pose la question si c'est pas... peut-être partiellement à cause de la pandémie. Il y a certains groupes, comme on peut nommer Critical Role ou Dimension 20, d'autres groupes américains qui ont commencé à diffuser leur partie de Donjons et Dragons comme une sorte de télésérie web sur Internet. Et dans les dernières années, ça a vraiment pris de l'ampleur. Critical Role a même créé une série animée basée sur leur histoire inventée de Dungeons and Dragons. Il y a le film de Donjons et Dragons qui vient de sortir aussi. On a mentionné Stranger Things.
En français, au Canada français, il y a Farador qui vient de sortir, qui est aussi un film dans l'univers de Donjons et Dragons. Mm-hmm. Ouais.
Je me demande si c'est juste quelque chose que les gens ont peut-être découvert pendant la pandémie ou juste un peu après, comme nous, mais je ne sais pas pourquoi c'est...
Joël, je t'ai vu faire non de la tête quand on a parlé de pandémie.
C'est certain que ça date d'avant la pandémie, d'après moi. La popularité, surtout de Critical Role, qui vient d'avant ça. Et c'est, puisque ça prend tellement de temps de pré-production, le fait que ça soit à la télévision maintenant et déjà dans sa deuxième saison, si je ne me trompe pas, la planification date de bien avant la pandémie. Mais ça veut dire que la réanimation de ce qu'était Donjons et Dragons, ça vient d'avant cette période de temps-là. Je pense qu'il y a eu un moment où les gens ont réalisé que c'est quelque chose qu'on peut faire pendant la pandémie, mais le fait que ça soit cool, ça date d'avant 2020, d'après
oui,
moi.
Oui, OK, d'accord. Oui.
Et ma théorie personnelle, comme n'importe quoi d'autre, c'est que comme la mode, il y a des choses qui vont et il y a des choses qui viennent. Et maintenant, hein, Donjons et Dragons et les jeux de rôle et les jeux de société qui sont dans ce genre-là où c'est semi-réglementé et semi-théâtral, mm-hmm. ça donne vraiment une place où on peut créer le monde dans lequel on veut jouer. Et ça veut dire que c'est extrêmement inclusif, dépendant de qui, avec qui on joue. Alors, si on veut jouer un personnage qui est pansexuel, par exemple, et ça, c'est l'expérience que moi, j'ai eue avec Richard, moi, je peux proposer ça comme ça, c'est la personne que je vais jouer. C'est pas mon expérience vécue, mais je veux explorer qu'est-ce que c'est être une personne comme ça. Et tant et aussi longtemps que tout le monde à la table dit « Ah, oh, ça, c'est intéressant, on va jouer avec cet aspect de ton personnage
wow, »,
ça
oui,
peut
oui,
devenir
oui.
un environnement très inclusif et peut-être une représentation de... pas ce qu'on vit en vraie vie, mais ce qu'on aimerait voir en vraie vie. Alors, c'est ce qui rend intéressant des jeux comme Donjons et Dragons, d'après moi.
C'est le personnage n'est pas nécessairement qui toi tu es. Tu peux jouer quelqu'un de foncièrement méchant ou d'extrêmement
oui.
pieux, ou tu sais, peu importe.
C'est ça. Ouais. J'ai un personnage que je joue dans ma vie personnelle qui est très religieux. Moi, je ne suis pas religieux du tout. Mais lui, oh boy, il est extrêmement religieux.
Presque comparer ça un petit peu au drag, qui a aussi une résurgence dans la culture populaire. Mm-hmm. Okay. Cette idée de performer un personnage. Mais en général, je pense qu'il y a une résurgence de la culture geek, puis que c'est cool maintenant d'être un geek au lieu d'être, tu sais, le nerd qui tu veux pas l'être parce que c'est pas populaire. Tu sais, il y a des films de super-héros partout. Il y a des... je pense que ça fait partie d'un plus gros mouvement culturel que juste Donjons et Dragons.
On a déjà parlé, Colin, toi puis moi, du phénomène Stranger Things. Toi, t'avais une réponse là-dessus, peut-être?
Ouais, je pense que Stranger Things a aidé de relancer la conversation publique. Il y a quelque chose au sujet de la série Stranger Things. Les protagonistes principaux sont des enfants. Et c'est des enfants qui... La série est basée dans les années 80. Je pense qu'il y a plusieurs adultes aujourd'hui qui... se voient dans cette série-là puis se disent « Moi aussi, je jouais quand j'avais cet âge-là puis peut-être que j'aimerais jouer encore. » Donc, je pense qu'il y a comme un effet nostalgique qui est activé. La popularité de la série a certainement aidé à ça. Mais je pense qu'un des gros éléments, c'est la facilité des règles du jeu comparées aux éditions précédentes. Donc, en ce moment, l'édition de Donjons et Dragons, c'est la 5e édition. Et c'est probablement l'édition la plus populaire, basée sur le nombre de livres qu'ils ont vendus dans les dernières années. Et c'est avec cette édition-là aussi que des podcasts comme Critical Role ont connu leur succès. Et les gens qui ont joué cette édition-là, comparé aux anciennes éditions, on dit que, un, elle était beaucoup plus facile à apprendre comparée à 4e, 3e édition. Et il y avait plusieurs éléments qui rendaient ça plus accessible. Donc, je pense qu'on a vraiment vu une combinaison de plusieurs éléments, comme Joël a mentionné, comme Ariel a mentionné, qui sont venus ensemble pour rendre ça accessible. Puis ensuite, ça permet à des gens comme Chuck, par exemple, qui n'avaient jamais joué avant, de déjà pouvoir identifier des éléments, le fun dans ce genre de jeu-là, puis de vouloir faire partie de cette aventure-là.
Absolument. Pour ma part, moi, je pense que les enfants ont beaucoup aidé. Le fait que j'ai des enfants qui ont eu l'âge de pouvoir commencer à jouer, puis je me suis dit, ben moi, j'ai tellement eu de fun il y a X nombre d'années passées à jouer à ça, ça me tente de le transmettre à mes enfants. Je vais me réintéresser à ça, pour être capable de faire jouer mes enfants. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Puis maintenant, j'ai plus besoin de mes enfants pour avoir du fun à jouer à Donjon. Maintenant, il est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire dans la francophonie et sur webwest.ca. C'est l'arrivée de Décidément. Et c'est l'idée, à la base, je pense, de Colin Champagne qui est avec nous et de Gabriel Touga. Et donc, moi, je veux qu'on parle de ça, qu'on en fasse la promotion un peu. Alors, Colin Champagne, ça vient d'où, l'idée? Parle-moi de ton processus de réflexion pour arriver à où est-ce qu'on est arrivé.
Processus de réflexion, assez simple. Commencer à jouer Donjons et Dragons. Adorer Donjons et Dragons. Je voulais en apprendre plus, donc j'ai fait des recherches en ligne. J'ai trouvé la série Critical Role, où il y a 6 à 7 voice actors. Voyons comment on dit ça en français.
Des comédiens de voix qui font les voix, par exemple, pour les bandes dessinées.
Oui, oui, OK, d'accord.
Ouais. Donc, c'est une série avec des comédiens de voix qui jouent leur partie de Donjons et Dragons pour un public. Donc, ils les montrent en ligne sur Twitch. J'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était une façon vraiment innovateur aussi de raconter une histoire et de créer du contenu avec ces histoires-là. Je pensais que c'était une manière aussi qui serait peut-être un peu plus abordable de créer du contenu de fantasy et de fiction en français. Parce qu'on on se cache pas que de la science-fiction et de la fantasy, ça coûte assez cher à produire. Mais la manière que ces séries-là sont faites, je pensais qu'il y avait peut-être un potentiel de faire la même chose en français. Et je savais qu'on avait du talent exceptionnel d'improvisation dans l'Ouest canadien. Donc je voulais absolument tenter la chance et essayer de donner une vitrine à ce talent-là avec Décidément, on est sorti de cette idée-là, dans le fond.
Est-ce que c'est un concept... On parle beaucoup de Critical Role. Est-ce que c'est un concept qui est emprunté d'à peu près ça? Tu sais, c'est essentiellement un jeu qui est filmé. C'est-tu comme ça que tu t'imaginais ça? C'est-tu comme ça que ça a fini par être?
C'est un peu similaire à ça. Nous, on utilise un système de jeu différent. Donc, on utilise Dungeon World qui favorise un peu le jeu de rôle plus que... les règlements entourant les combats, par exemple. Il y a un peu moins de roulement de dés, puis on roule 2D6 au lieu d'un dé à 20 faces. Mais une différence aussi de notre série, c'est que on avait seulement 2 jours de tournage. Donc il fallait absolument que notre histoire ait son arc narratif au complet dans ces 2 journées de tournage-là. Donc, dans ce sens-là, on voulait aussi donner la chance à nos personnages d'avoir une évolution. On voulait donner la chance au public d'en apprendre plus sur les personnages. Donc, on a incorporé des petites vignettes, des flashbacks dans la série. Et puis, ces vignettes-là sont légèrement plus planifiées dans le sens qu'il y avait des discussions avec le maître du jeu puis les joueurs au sujet de leurs personnages de moments formateur pour leur personnage, qu'est-ce qui serait intéressant de jouer ensemble à ce niveau-là. Et donc, on a un format beaucoup plus compact comparé aux autres séries qu'on trouve en anglais. Et je pense qu'on est vraiment en train de se battre dans une autre division, une division higher weight class, comme on dit en anglais. On est en train de se battre dans une division beaucoup plus avancé, puis on est capable de vraiment tenir notre coup dans cette division-là. Je pense qu'on a vraiment créé quelque chose qui est un peu plus compact, mais pas mal punchy. Puis le niveau de production que Gabriel Touga, Martin Lafrenière, puis Kevin Bacon ont apporté pendant le tournage, puis ensuite ce que Nathanael a apporté au niveau de la production sonore pour la musique, je pense que tous ces éléments-là donnent à notre série un niveau de production très, très élevé qui rivale vraiment les séries anglophones qui ont des budgets beaucoup plus grands que les nôtres.
Chuck, je vais te demander de me parler sur qu'est-ce qui fait que toi, t'es fier de cette série-là puis t'es fier d'y avoir participé puis tu penses que c'est bon.
Moi, je pense que c'est juste vraiment bon. I mean, l'histoire qui a été co-créée par tout le monde est vraiment comme la magie. Quand je l'ai partagé avec des gens, les quantités de rétroaction que j'ai reçues de mes amis, et la plupart de mes amis n'ont jamais joué, n'ont pas du tout compris Dungeons & Dragons. J'avais plusieurs amis qui m'envoyaient des textos qui étaient comme, je ne comprends pas trop le concept, mais c'est tellement amusant. Ou genre, j'avais un ami qui parle même pas français, qui savait pas qu'il avait des sous-titres en anglais, qu'il a regardé en français sans sous-titres. Et comme, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, mais genre, je vois la magie. Et je crois que c'est parce que, comme Colin a mentionné, la série est juste bon. Le storytelling, la narration est excellente. Les personnages sont vraiment intéressants. Je crois que chaque comédien dans notre groupe a vraiment entré dans le corps, dans l'esprit, dans les yeux. En effet, ils ont voyé à travers les yeux de personnages et ça s'est voyé même avec une barrière linguistique. Et l'autre chose qui était vraiment cool est le fait qu'on l'a réalisé à Winnipeg. Et je crois que ça a ajouté à l'ambiance. C'était ma première fois à Winnipeg. J'ai appris beaucoup de choses.
Mais c'est un bon point, c'est un bon point de le dire parce qu'on a quand même rassemblé différentes personnes de différents secteurs de l'Ouest canadien là, pour faire ce projet-là. C'est important pour toi, Colin, de faire ça?
Absolument. Je tenais absolument à avoir plus qu'une province impliquée dans la série. Ben, à la base, c'était moi. Gabriel vient du Manitoba, moi je viens de l'Alberta. Et puis je tenais absolument à avoir des comédiens de l'Alberta dans la série parce que je savais qu'ils existaient. Puis je pense que la représentation dans les médias, c'est important à ce niveau-là aussi. Parce que en français, on a souvent la chance de voir des produits de science-fiction puis de fantasy traduits. Puis c'est traduit soit avec les accents français, européens ou les accents québécois. Mais on n'entend pas toujours la diversité d'accents qu'on a dans l'Ouest. Donc je pensais que c'était important d'avoir nos gens de l'Ouest qui soient dans cette série-là, puis de plusieurs différents endroits.
Et c'est le but aussi de webwest.ca. Fallait que je le dise. Joël, est-ce que vous êtes arrivé à faire une bonne game?
D'après moi, oui.
Oui? Pourquoi?
Je pense que ça se voit vraiment dans le point de la fin, le point culminant de chaque épisode, où je pense que les spectateurs vont se dire « J'aimerais savoir qu'est-ce qui suit. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces personnages-là. » Et d'après moi, ça, c'est qu'est-ce qui donne une bonne histoire. Parce qu'il y a de l'enjeu. Il y a des relations qui existent, mais il y a aussi de l'inconnu. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer et il y a des choses à découvrir. Alors, pour moi, c'est ce qui donne vraiment naissance à une bonne histoire. Et même à la fin de la série, de la première saison, parce qu'on sait, évidemment, on espère qu'il va en avoir plusieurs, il y a de la place pour continuer à compter cette histoire-là.
Ouais.
Alors, pour moi, c'est de savoir que moi aussi, j'ai reçu de la rétroaction de gens qui ont dit « J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans le prochain épisode. »
Mais c'est vrai que c'est pertinent parce que bon, il y a le phénomène de regarder du monde jouer à un jeu, c'est une chose, mais à un moment donné, tu as besoin de plus que ça comme spectateur, tu as besoin de te rentrer dans l'histoire, comme les raisons pour lesquelles on écoute des séries, puis des téléromans, puis des films, puis etc. C'est vraiment l'histoire. Puis... Qu'est-ce que tu penses de la game, toi, Ariel?
J'ai eu juste tellement de plaisir à rencontrer tous ces gens, certains que je connaissais déjà, certains que je viens juste de rencontrer, comme Chuck. Mais j'ai trouvé ça juste vraiment le fun d'être capable de... Encore, chaque personne a vraiment créé, travaillé leur personnage. Et moi, de découvrir les personnages des autres en tant que mon personnage. Ça l'ajoutait de l'intrigue pour chacun d'entre nous. On était tous motivés de faire avancer l'histoire pour des raisons personnelles, autant que pour savoir qu'est-ce qui allait se passer.
Colin a parlé d'un cadre. Là. Il faut commencer tel jour puis finir exactement deux jours plus tard. Est-ce que vous aviez quand même l'impression comme personnage que vous aviez le libre arbitre de pouvoir vous amuser là-dedans puis amener l'histoire un petit peu des fois où vous vouliez qu'elle aille?
Oui, et c'est un aspect très important du jeu, en fin de compte, le « oui et » qui existe en improvisation et dans les jeux comme ça.
C'est-à-dire?
Alors, c'est-à-dire, lorsque les joueurs proposent quelque chose, c'est important que le maître du jeu dise « oui » à cette idée-là et intègre le jeu à l'intérieur de le restant de l'histoire. Peut-être qu'il va avoir des conséquences inconnues, peut-être que ça ne va pas bien aller pour les joueurs, mais lorsque je dis « mon personnage veut faire telle et telle chose », c'est important de dire « oui » à ça, si c'est dans le royaume du possible, pas genre « mon personnage veut exploser la lune ». Si je n'ai pas la capacité de faire ça, ça ne va pas vraiment se manifester, mais de dire « moi, mon personnage personnage aimerait tenter de faire X, Y, Z, ça veut dire on va rouler, on va savoir qu'est-ce que si ou si oui ou non, ouais, il va avoir du succès. Et ça, ça fait partie de l'histoire, c'est canon maintenant, que ça aille bien ou pas. Et ça, c'est une partie très importante de ce genre de jeu et de ce genre de jeu de jeu de rôle entre les personnages. Alors oui, c'est vrai qu'on avait des consignes par rapport à il faut compléter l'histoire à l'intérieur de X montant de temps. Et oui, on avait seulement un certain montant de temps pour tourner à tous les jours. Mais on avait beaucoup, beaucoup de liberté en tant que personnage et en tant que joueur de proposer toutes sortes de différentes affaires parce que nous, on ne savait pas ce qui allait se passer.
Ouais, ouais.
Et c'est Colin qui a vraiment démontré sa maîtrise du jeu, d'être capable d'intégrer toutes ces histoires-là à l'intérieur de ce qu'est maintenant décidément.
Que Joël dit ça, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que de ma perspective, j'avais vraiment peur que le jeu se sente trop sur des rails de train. C'est une expression en anglais dans les jeux de rôle, où on appelle ça railroaded, où les joueurs se sentent comme s'ils sont sur des rails de train et peuvent seulement aller dans une direction. Puis ça brise un peu la magie. Puis j'avais peur que dans notre format, les joueurs se sentent un peu comme ça. Donc, d'entendre Joël dire ça, ça me donne beaucoup de plaisir, en fait, d'entendre ça. Puis, les joueurs ont rendu ça beaucoup... Les personnages que les joueurs ont créés étaient exceptionnels.
Colin, la différence entre ce que tu t'attendais puis ce qui est arrivé, finalement?
À tous les niveaux, nos attentes ont été dépassées. Donc, on est extrêmement reconnaissant de tous ceux qui ont contribué à ce projet-là puis qui ont réussi à accomplir cela, parce que c'était vraiment un travail d'équipe. Donc, on est extrêmement reconnaissant, mais toutes nos attentes ont été vraiment dépassées. On n'aurait pas pu demander mieux.
On a beaucoup parlé du contenu. Maintenant, rapidement, parlons du contenant, parce qu'il y a eu quand même une attention. Là, visuellement, c'est beau. Il y a de la musique. Tu as parlé de Nathaniel Ouzyaki tantôt. Il y a quand même une attention qui a été portée à de quoi ça a l'air.
Ça, c'est la magie de Gabriel Touga et l'équipe qui l'a rassemblé. Ça, c'est, et il y a beaucoup qui se passe en planification et aussi beaucoup qui se passe en post-production. Et nous, on n'avait pas vraiment la capacité de vraiment envisager ça de la façon que Gabriel est capable de le concevoir à l'intérieur de sa tête. Alors moi, j'étais juste là en tant que joueur. Moi, j'allais contribuer autant que possible et j'allais garder en tête que j'essaie de conter une histoire pour un public, mais c'est de la pâte à modeler pour Gabriel. Il est capable de transformer ça en quelque chose d'extraordinaire,
ouais,
par après. Et moi, j'ai juste le plaisir d'être capable de le voir par après pour dire « Wow! J'étais là! J'ai vécu le tournage! »
Mais quand tu le regardes...
Quand je le regarde, c'est quelque chose de complètement différent. Alors ça, c'est vraiment magique.
Alors, on va faire un tour de table. Vous allez me dire les raisons pour lesquelles on devrait tout de suite éteindre le podcast puis aller regarder Décidément. On va commencer par Ariel.
Moi, je veux dire, si vous avez jamais joué à Donjons et Dragons ou si vous êtes curieux ou si vous êtes juste ouvert à explorer un nouveau médium de raconter des histoires, de créer des histoires. Ça vaut absolument la peine. Ça donne des idées, ça donne aussi juste du plaisir parce que on a eu énormément de plaisir à créer cette série. Puis on espère existentiellement vous transmettre tout ce plaisir lorsque vous regardez un épisode.
Joël?
J'ai une couple de réponses. Premièrement, est-ce que lorsque vous étiez jeune, en tant que petit mini francophone, quelque part dans l'Ouest canadien, est-ce que vous disiez « Hey, moi j'aimerais bien ça, être capable de visionner du contenu qui représente le genre de personnes que je rencontre dans ma communauté? » Si oui, vous voulez regarder à Décidément, parce que c'est exactement ça que ça représente. Aussi, est-ce que vous regardez des séries télévisées où il y a plusieurs personnages et vous vous dites « Oh, mais il y a un personnage que j'aime juste un peu plus que tous les autres personnages parce que je m'accroche vraiment à cette personne-là, vous voulez regarder Décidément. Est-ce que vous voulez vivre des moments de catharsis, de rire, de joie et de tristesse? Vous voulez regarder Décidément parce que ça offre toutes ces affaires-là.
Excellent, Colin.
Si vous êtes un geek francophone en particulier, je pense que vous allez adorer cette série-là. Si vous êtes quelqu'un qui n'identifie pas comme un geek, je pense que vous allez adorer cette série-là parce qu'il y a vraiment un peu de tout dedans. Nos comédiens sont très drôles. C'est une série qui est quand même très drôle. Le jeu physique que les gens font est exceptionnel. Mais mon dernier pitch, c'est le mixage sonore que Gabriel a fait et la musique de Nathaniel Ouzyaki est exceptionnelle. C'est les émotions sont au rendez-vous avec cette musique-là. Et puis, c'est un délice à tous les niveaux. Donc, je sais que c'est notre propre série, puis ça semble comme peut-être on est un petit peu biaisé, mais donnez-y une chance, je pense pas que vous allez le regretter.
Écoute, c'est un fait. Gabriel, tout gars, il fait de la bonne télé, vous autres. Alors, oui. Allez regarder ça.
Non, effectivement.
Ça vaut la peine.
Effectivement. Et ça s'appelle Décidément, ça se trouve sur webwest.ca. Colin, Chuck, Ariel, Joël, merci énormément d'avoir participé à ce podcast. J'espère qu'on a réussi à vous donner le goût, chers auditeurs, d'aller vous immerser dans la culture des jeux de rôle et puis définitivement de regarder Décidément. Merci beaucoup. Les passionnés de la table ronde rassemblent des personnes qui ont quelque chose à dire sur un sujet donné qui touche les francophones de l'ouest et du nord du pays autour d'une table ronde. Pour d'autres belles discussions, suivez-nous sur webwest.ca.
D'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus.